toutes et à tous et bienvenue dans Le Bel Aujourd'hui, podcast de Forum Opéra consacré à la création contemporaine. Après un temps de pause, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Justina Repečkaitė, compositrice lituanienne basée à Paris. Son actualité est riche puisqu'elle présente le 27 avril prochain une nouvelle œuvre pour voix, instruments et électronique dans le cadre du programme Janus, un partenariat entre le Centre de musique baroque de Versailles, le CMBV, et l'IRCAM. Justina Repečkaitė, bonjour.
Bonjour.
Alors avant de nous intéresser plus spécifiquement à la pièce que vous présentez, j'aimerais qu'on parle un petit peu du contexte de sa création. Il y a ce partenariat donc, qui s'appelle Janus, qui réunit deux institutions musicales assez éloignées, on pourrait dire. Donc le Centre de musique baroque de Versailles d'un côté et l'IRCAM de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ce programme et sur ce contexte ?
Donc, les deux institutions sont fières de se présenter en tant que les institutions qui font de recherche. Et c'est vrai que toutes les deux, elles font la recherche sur des époques tout à fait éloignées. Et donc, pour moi, c'était vraiment intéressant de me plonger dans l'univers qui est assez obscur pour moi, l'époque baroque, justement d'apprendre que déjà ces centres existent, qu'ils se focalisent uniquement au répertoire du XVIIe, XVIIIe siècle, le répertoire français.
Donc, vous ne connaissiez pas le CMBV avant, c'est un peu la première rencontre pour vous.
J'ai entendu parler, je savais que ça existe, mais quand j'ai appris plus à propos de ce centre, donc j'ai compris qu'il y a aujourd'hui des interprètes de la musique baroque française qui dédient leur vie à cette recherche, à ces répertoires qu'ils chantent le jeudi dans la chapelle royale. Donc,
ça vous a étonné?
C'est impressionnant de savoir que donc, cette tradition est quand même vivante aujourd'hui en France. Gloria, gloria, patria et filio. Gloria, gloria, patria et filio. Gloria, gloria, patria et filio.
Parlons un petit peu de cette pièce qui s'appelle La Mue. Cette pièce est tout à fait le reflet de ce programme un peu à double face, puisque vous avez recours d'un côté à un dispositif électronique et de l'autre à un cœur d'enfant et un serpent. Comment est-ce que vous en êtes venu justement à combiner de telles forces ?
Donc, justement, l'intérêt de ce projet, c'était que chaque compositeur-compositrice avait la liberté de choisir écrire pour cœur d'adulte, les chantres, ou cœur d'enfant, les pages. Et donc, au début, j'étais hésitante, mais une fois cette idée de la mue m'est venue, ça m'a paru tout à fait naturel que je vais écrire pour les enfants. Et une fois que j'ai pu les écouter, c'était confirmé pour moi, parce que déjà le timbre de ces chœurs est divin. Il y a beaucoup de brillance quand ils chantent, et moins de vibrato, par exemple, si on compare avec les adultes. Donc pour moi, c'était très intéressant déjà à penser cette pièce, parce que c'est bien différent quand tu écris la pièce pour les interprètes que tu connais déjà. Tu passes beaucoup de temps à penser à eux. Donc, c'était intéressant que le projet, très tôt dans le projet, on était déjà introduit à cette institution et on a pu écouter les chanteurs. Et c'est juste un an plus tard que j'avais cette idée d'ajouter le serpent.
Qui est un instrument pour lequel vous aviez déjà écrit ?
Non, mais parce que justement, pour ce concept de la mue, je ne voulais pas ajouter un instrument ancien qui n'a pas du lien avec le concept. Si c'était un viol de gambe, je ne vois pas comment on pourrait enrichir le concept. Mais un jour, j'ai pensé à un ami, Patrick Wiebert, qui a déjà joué ma pièce à la Radio France avec son quatuor du Saxhorn Opus 333. Et donc, je savais déjà cette capacité de combiner le chant et le jeu simultané dans l'instrument. Donc, il est capable pas uniquement de chanter et jouer en même temps, mais aussi il a des techniques particulières, par exemple le didgeridoo. Donc, ça consiste du chant diphonique aussi. Et donc, je l'ai appelé parce que je savais qu'il joue le serpent. C'est juste que je n'ai jamais écouté dans le concert et je lui ai posé une question simple. Est-ce que dans le serpent, tu peux aussi chanter et jouer en même temps? Et sa réponse était « Oui, bien sûr, et c'est très chouette. » Et comme c'était sur WhatsApp, il a sorti son instrument, il m'a fait écouter. J'ai dit « Je veux que tu sois mon soliste pour ma pièce La Mue. » Et justement, en discutant avec lui plus tard, j'ai pris aussi des liens un peu symboliques.
On pense à la mue du serpent, justement.
Pas uniquement donc, ces termes qu'il employait pour la mue du serpent, mais aussi historiquement, il m'a raconté qu'au XIXe siècle, le serpent était encore employé dans les églises françaises. Et justement, quand il a accompagné les enfants, certains entre eux, qui ne pouvaient plus continuer à chanter à cause de la mue de la voix, s'ils étaient assez doués, ils apprenaient à jouer le serpent. En plus, cet instrument est comparé beaucoup avec la voix humaine. Donc, avec cette technique, le chant ajouté, quand le musicien joue, pour moi, c'était symboliquement très beau de le faire le centre de la pièce aussi.
Et donc, c'est une pièce qui est aussi réalisée à l'IRCAM. Le dispositif électronique, qu'est-ce qu'il est ? Ce sont des enregistrements ? Il y a du traitement en temps réel ? Comment ça se passe ?
Donc, pour électronique, le point de départ, d'abord, c'était analyser les formants des enfants. Parce que s'il existe des données des formants des adultes, les enfants n'étaient pas beaucoup, les voix des enfants, les formants n'étaient pas beaucoup abordés. Il y a des articles, mais par exemple, il n'y a pas une bibliothèque où on pourrait vraiment écouter qu'est-ce que ça donne, les formants des enfants. Donc, nous avons fait des analyses. Justement, CMBV avait fait des enregistrements à l'IRCAM qui nous a beaucoup servi justement pour créer cette bibliothèque des formants. Donc, c'était le point de départ pour la mue, mais aussi, d'autre part, pour analyser le serpent. Qu'est-ce que donc se passe dans le spectre quand on analyse ces sons riches de voix chantée quand le musicien joue dans le serpent. Et donc, pas uniquement les intervalles différents qu'il peut produire, mais aussi ces techniques didgeridoo dont Patrick est la seule personne que je connais qui peut faire ça. En plus, avec le serpent, c'est complètement inattendu. Et donc, comme le projet du Génus, c'est aussi déplacer le public dans la chapelle royale, parce que justement, l'empreinte acoustique de la chapelle royale était faite par par Lirka. Et donc cette pièce doit nous plonger dans cette atmosphère. Et donc je voulais vraiment rester fidèle à cette idée du départ de ne pas quitter cet espace. Mmh. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement les interprètes qui sont plongés dans cette acoustique, mais aussi la partie électronique. Et donc, comme la chapelle royale a un reverb assez prolongé, ça change complètement la musique. Donc à chaque fois, quand j'avais des enregistrements des musiciens, tout le temps quand j'écris la partie électronique, il fallait toujours injecter dans cette reverb spécifique parce que ça change complètement notre écoute et ça invite aussi de ralentir un peu le tempo.
Ce que je n'ai pas précisé au départ, c'est que le concert du 27 avril sera à l'espace de projection de l'IRCAM, dans lequel justement toute la technologie de l'Institut sera mise à contribution pour recréer l'acoustique de la chapelle royale de Versailles.
Mm-hmm. Et donc pour l'électronique, il va avoir pas uniquement live electronics, mais justement de la synthèse électronique, parce que je m'intéresse au modèle physique des instruments, mais donc au lieu d'utiliser les échantillons, des enregistrements, je préfère justement produire électroniquement le son qui vient de ces analyses. Justement, travailler sur les illusions, cette ambiguïté, quand on ne sait plus s'il s'agit d'un instrument qui joue ou c'est une source complètement électronique. Et donc, il y a des échantillons, il y a des enregistrements qui étaient faits par les enfants, aussi travaillés d'une manière pour faire peut-être une allusion de la voix qui est perdue, la perte de la voix, justement, et même ma propre voix, parce que j'en avais besoin et c'était accessible.
Justement, on parle de la mue qui est un sujet vocal par excellence. Comment est-ce que cette perte de voix ou ce changement, cette transformation est traitée au cours de la pièce ?
Donc, d'abord, j'avais cette occasion unique en étant à Versailles, de pouvoir écouter les enfants tant les voix sont en train de changer. Mmh. Normalement, qu'est-ce que ça passe quand la voix commence à changer ? Les jeunes arrêtent à chanter parce qu'on considère que c'est dangereux, tu peux endommager ta voix si tu continues à pratiquer le chant, mais pas à Versailles. Au Centre de musique baroque de Versailles, les jeunes continuent à chanter même quand leur voix change. Bien sûr, ça veut dire que beaucoup d'attention doit être portée à leur voix pour que ils continuent à chanter uniquement dans les registres dont ils sont encore capables de chanter. Et donc, quand j'ai pu écouter certains garçons chanter, pour moi, c'était une expérience émouvante parce qu'ils gardaient encore leur timbre brillant dans les aigus. Les milieux étaient complètement absents et les graves étaient naissants mais un peu obscurs, les notes pas très concrètes. Dans ma pièce, par exemple, il y a des moments où les enfants sont demandés de chanter les notes les plus aiguës possibles ou les notes les plus graves possibles pour justement explorer les registres extrêmes, leurs limites, leur imagination aussi, mais aussi, par exemple, une technique de vocal fry qui en fait peut très bien illustrer le changement de forme. Par exemple, quand on utilise les filtres formantiques, et si on fait, si on injecte le son du vocal fry, on peut très bien s'apercevoir du changement des voyelles. Donc, un vocal fry qui représente aussi un peu la perte de la voix. Donc, ces petites idées de changement de la voix sont présentes dans la pièce. Mais justement, avec l'ajout du serpent, le concept s'est élargi. Ce n'est pas uniquement la mue de la voix d'un enfant vers la voix d'adulte, mais c'est la mue de la voix vers l'instrument du serpent.
Peut-être dernière question sur votre pièce, la mue. Est-ce qu'il y a un texte? Mm-hmm. Et si oui, d'où vient-il?
Oui, donc le texte, c'est le texte qui date du XVIIIe siècle. C'est Samuel Auguste Tisson, un médecin suisse, qui a écrit ce texte. Pour la première fois dans l'histoire, on parle de la mue de la voix. Ça s'appelle « Les essais de la mue de la voix ». Et donc, comme son titre indique, avec les connaissances de l'époque, il essaye d'expliquer pourquoi la mue a lieu. Donc, il parle de l'épaisseur des cordes vocales, il fait référence aux d'autres chercheurs, etc. Donc, au début, ça peut paraître assez scientifique, mais le concept des hormones n'étant pas encore connu à l'époque, pour lui expliquer cette question de la puberté, le seul moyen, c'était de parler de la naissance de l'amour. Mmh. Donc, finalement, on se retrouve à lire le texte scientifique qui emploie des termes « l'amour », « charme », « l'art », « l'âme ». Il parle des effets, les changements dans l'âme aussi pendant la puberté, etc. Donc, finalement, c'était ça qu'est-ce que m'a le plus étonnée dans ce texte, et c'était l'intérêt de ce texte pour moi. Donc finalement, j'ai pris certaines phrases, j'ai pris certains mots-clés, justement les mots que je viens d'évoquer, et j'ai joué avec ces mots parce que pour moi, c'était aussi intéressant de regarder les consonnes et voyelles comme si c'était une manière de filtrer les sons. Donc, les enfants sont demandés de chanter sur les voyelles comme sur les consonnes. Et donc, ça donne les timbres assez différents, des effets vocaux.
Justyna Repečkaitė, en consultant votre catalogue, on constate que la voix occupe déjà une place assez importante. Si on devait justement définir l'écriture vocale de Justyna Repečkaitė, comment est-ce qu'on s'y prendrait ? Qu'est-ce qu'on dirait ?
Donc, une fois, un ami compositeur a dit « Oh, c'est vraiment étonnant, Justyna, dans ton écriture vocale, il n'y a pas de différence entre ton écriture vocale et instrumentale. » Et que, apparemment, c'est rare pour quelqu'un qui écrit la musique. Et c'est vrai que je connais plein d'exemples de quand donc un créateur écrit la musique vocale, il cherche une nouvelle manière pour s'exprimer. Tandis que dans mon cas, comment j'écris la musique instrumentale, c'est traduit exactement dans la musique vocale.
Comment ça s'est fait d'abord ? C'est l'œuf ou la poule ? Est-ce que c'était d'abord la musique vocale qui ensuite vous a amené à l'écriture instrumentale ou c'est l'inverse selon vous ?
Pour moi, il n'y a pas de différence, justement. Qu'est-ce qui m'intéresse dans la musique ? C'est une sorte de répétition, de créer des pulsations qui reviennent de temps en temps. Donc, il y a beaucoup de répétitions de notes qui reviennent. Et donc, c'est juste qu'à un moment donné, quand j'écris ma musique vocale, je me suis rendu compte que il ne faut pas chercher une nouvelle manière d'exprimer ma musique, parce que c'est tout à fait naturel pour la voix aussi. Même si dans mon écriture, il y a des quarts de ton, donc ça complique un peu l'interprétation, surtout quand tu écris pour les enfants, c'est vrai. Mais par exemple, dans ma pièce vocale pour six sopranes, ça s'appelle La Cité des Dames, donc, c'est la musique très répétitive, mais fait un peu référence aussi au monde médiéval, justement, comme le texte, ça fait référence au livre homonyme de Christine de Pizan. Et justement, c'est la première fois dans l'histoire aussi que quand une écrivaine s'adresse à la misogynie. Et quand j'ai reçu cette commande d'écrire pour six sopranes, je me suis dit, c'est un texte parfait. parce qu'on voit six femmes fortes sur la scène. Et, mais justement, la question, quand on écrit la musique vocale de même manière que la musique instrumentale, la question se pose comment on traite le texte. Parce que souvent, donc, il faut se poser la question... si on veut que ce texte soit audible ou pas. Et donc, j'ai pris la décision que qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans le texte, c'est une certaine charge symbolique et que c'est pas tout, pour moi, ce n'est pas nécessaire que chaque mot soit compréhensible. Donc, quand je choisis les textes, souvent, il s'agit des époques très anciennes. Par exemple, donc ici, La Cité des Dames, 15e siècle, j'écris une pièce de... qui s'appelle Grimoire. Le texte date du 12e siècle. Maintenant, pour le projet avec l'IRCAM, 18e siècle, où j'ai encore écrit des pièces qui étaient inspirées par ces livres. Je ne sais pas comment dire en français. Lithuanian Healing Charms.
Livre d'incantation.
Oui, incantations qui guérissent, justement. Donc, il s'agit de la tradition païenne, mais donc des petits bouts de texte qui sont un peu mystiques, qui parlent de la magie. Pour moi, c'est très intéressant. Et justement, quand il s'agit des textes anciens, surtout des langues obscures, l'ancien français, grec, latin, etc., donc, créateur a cette liberté de déconstruire ses textes librement et aussi chercher certains fragments et justement pas être prisonnier de la forme qui est suggérée par le texte. Justement proposer sa propre lecture du texte.
C'est aussi, vous parliez de charge symbolique du texte plus que son sens. C'est aussi pour ça que vous allez souvent chercher des textes qu'on qualifierait un peu vaguement d'anciens, en tout cas, on a parlé du 18e, voire même du 12e siècle. C'est aussi à la recherche de quelque chose de symbolique, d'obscur et donc de pas nécessairement immédiat pour nous et donc que vous pouvez manipuler plus aisément.
C'est juste que je crois que si on écoute la musique vocale en comprenant le texte, on cherche à comprendre le texte. Je crois que dans notre cerveau, il y a notre endroit qui s'allume. Donc si on veut se libérer de ce côté compréhension verbale, il faut masquer le texte. Mais justement, si le texte, si certains mots se répètent au long de la pièce, bien sûr, on comprend le texte, mais on ne cherche pas à comprendre peut-être le concept qui est derrière cette phrase et l'émotion qui accompagne. Parce que c'est vrai, si j'ai écrit le texte sur la poésie de quelqu'un, ça veut dire que donc, ça évoque certaines images musicales. Et moi, je préfère de façonner le texte à ma manière.
Proposer une sorte d'écoute réduite du texte, ouais. En tout cas, détaché dans un premier temps du sens.
Et même, donc une fois, j'ai eu cette opportunité de collaborer avec une auteure, Duna Lu, pour un projet, c'était un extrait de l'opéra La Chartreuse Villeneuve, Les Avignons. Et justement, comme il s'agissait de la collaboration, j'ai réussi de la séduire avec le sujet des incantations qui était très intéressant pour moi à l'époque. Et donc, elle a écrit un texte qui, en même temps, parlait de l'AVC, mais aussi de cette question de la guérison, justement par des moyens des sorts.
Soriana Capasquale est une sorcière. Les villageois racontent qu'ils viennent la consulter quand ils souffrent du genou, de la goutte, de la toux, de chagrin d'amour, de vergiture. Elle les soulage avec des formules, avec ses mains et avec des plantes. Mais les vaches de son voisin sont mortes. Trop de vaches. C'est forcément acte de sorcellerie. Soriana est une sorcière. Elle a pactisé avec le diable. De toute façon, elle l'a dit elle-même. Elle a avoué avoir dansé le sabbat avec sept diables. Elle l'a avoué après les poussettes et l'estravade, avec une jambe cassée et les ongles en sang. C'est bien la preuve de sa damnation. Elle a avoué. Mais ce jour-là de mai 1536, sur la place publique, Soriana Pasquale ne brûle pas. Et d'ailleurs, elle chante. Quand on ne brûle pas et que l'on chante dans les flammes avec un visage et un corps de flamme,
Justina Repechka était une autre tendance de votre catalogue, on en parle déjà depuis un moment, on tourne autour, c'est ce dialogue constant avec l'histoire, et vous intéressez tout particulièrement à une période qu'on peut qualifier de médiévale, c'est un peu réducteur, mais on peut peut-être préciser ça aussi. Au-delà peut-être de cette fascination un peu symbolique dont on parle déjà, qu'est-ce qui vous fait sans cesse revenir à cette époque?
Donc, pour la première fois que j'étais initiée à la musique médiévale, c'était quand j'ai fait mes études au CNSM de Paris. Je me suis inscrite dans la classe de Raphaël Picassos, où il enseignait pas uniquement l'improvisation médiévale, des polyphonies chantées, mais aussi l'analyse des manuscrits, etc. Et c'est exactement l'endroit où j'ai rencontré Patrick Wibert,
ah oui,
le serpentiste, qui donc, est venu aussi s'initier au chant. Donc, ce n'était pas facile comme pratique parce que mes collègues faisaient le master de l'interprétation médiévale. Donc, ils étaient vraiment au fond dans ce répertoire.
Vous étiez déjà chanteuse ou c'était complètement nouveau pour vous?
Donc, en Lituanie, justement, j'ai commencé par le chant. Donc, pour moi, s'exprimer avec la voix, c'est naturel. Mais ce répertoire médiéval, c'était nouveau et j'étais fascinée dès le début. Et surtout, quand j'ai découvert Ars Subtilior, donc ce style de la fin du XIVe siècle, pour moi, en tant que compositrice, c'était très parlant parce que c'est une sorte d'avant-garde de l'époque qui évoque justement les proportions, comment la même musique peut être lue d'une manière ou l'autre, juste parce qu'il y a un chiffre qui change. Donc pour moi, c'était très mystérieux et la musique très complexe. Comme c'était fait par des gens sophistiqués pour d'autres gens sophistiqués, il y a beaucoup de maniérisme aussi dans les manuscrits qui sont très beaux à regarder. Et donc, pour moi, tous ces exemples étaient très parlants parce que dans ma musique, je cherche aussi une certaine manière d'encoder des choses qu'on peut visuellement percevoir dans une seule page. Donc, le concept qui est très, très clair, qui est une sorte de code avec les chiffres, qui peut être visible avec les yeux. Et après, ce concept est traduit en partition.
Et vous souhaitez que ce concept il devienne audible aussi ou ça reste sur seulement de la Augenmusik, de la chose qu'on voit seulement en voyant la partition mais dont on ne se rend pas compte, qui agit de façon un peu inconsciente?
J'essaie parfois d'imaginer certaines pièces dans des temporalités tout à fait différentes. Donc dans cette situation, on peut imaginer aussi la lecture de ces codes aussi dans des temporalités différentes, parce que tous les paramètres y sont déjà présents. Mais justement, j'ai aussi des exemples qui servent aujourd'hui pour les musicologues, justement pour analyser les pièces, parce que dans la partition, tu peux retrouver donc, les mêmes paramètres que tu peux voir aussi dans une seule page unique.
Mmh. Vous parlez depuis... Enfin, vous avez évoqué ce mot-là de plusieurs fois depuis le début de cette interview, l'importance du concept. C'est cette fascination pour l'encodage, pour les messages subliminaux dispersés dans la partition semble le confirmer. C'est donc important pour vous le concept d'une pièce?
Je crois que la pièce ne peut pas exister sans le concept. Et c'est probablement, donc, travailler le concept, c'est... probablement donc le travail qui prend le plus d'énergie justement à réfléchir et après donc une fois le concept est créé, une fois tu trouves le code pour la pièce, il s'agit de l'écriture de la partition qui peut se dérouler assez vite.
Mais ce concept, quel est-il ? C'est une idée musicale ou c'est quelque chose de derrière la musique, d'avant la musique
dans... Oui, ça peut être quelque chose de très abstrait.
Merci beaucoup, Justina Repechkaite, de votre présence avec nous aujourd'hui. Je rappelle donc la création de votre dernière pièce, La Mue. Ce sera le 27 avril à l'espace de projection de l'IRCAM. Les pages du CMVV seront dirigées par Clément Buonomo. La partie de Serpent est tenue par Patrick Wibart et c'est Juan Svidzinski qui a co-réalisé la partie électronique avec vous. Cette pièce, elle s'inscrit dans le cadre du concert Janus, le fruit d'un partenariat entre le Centre de musique baroque de Versailles et l'IRCAM. Sont au programme donc des pièces d'Antoine Boisset, Pierre Bouteiller et Jean-Philippe Rameau, ainsi qu'une création de Hugues Markovitch. De mon côté, j'aurai le plaisir de vous retrouver très rapidement pour un nouvel épisode du Bel Aujourd'hui. À tout bientôt.